Ce matin, dans Exode, au chapitre 6, on va lire juste quelques versets pour s'introduire. On va se promener un peu en chapitre 5 et 6. Vous savez, la Bible, ce n'est pas des fables habilement conçues. C'est la vérité. Ces choses sont arrivées. Il y a plusieurs milliers d'années. Mais ce qu'on considère ce mois-ci, c'est le même Dieu. Et des fois, moi, j'ai ce symptôme-là. Je ne sais pas pour vous, des fois, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, puis Dieu faisait des choses extraordinaires, les 10 plaies d'Égypte. Dieu n'a pas changé. Ça veut dire que Dieu pourrait envoyer 10 plaies dans notre temps moderne. Je veux dire, Dieu, il ne change pas. C'est ce qu'on va considérer ce matin. Le titre du message, c'est « La révélation du Dieu immuable ». Et vous allez voir pourquoi, avec les versets qu'on va lire. On commence au verset 1. On va lire simplement jusqu'au verset 5. On va considérer d'autres versets plus tard, mais pour s'introduire, c'est ce qu'on va regarder. Exode 6.1, « L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser... Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous ce nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. » On te remercie, notre Père Céleste, pour ta parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Merci que ce matin, tu sondes les pensées et les intentions de chacun de nos cœurs. Merci que tu es vivant et que tu t'approches de ceux qui s'approchent de toi par la foi. C'est ce qu'on fait, Seigneur, maintenant. Et on est dans un temps de bruit, un temps de tourmente, des temps bien fâcheux. Mais Seigneur, merci que tu es notre rocher. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. On peut toujours se fier sur toi. Que tout homme soit connu pour menteur et Dieu seul pour vrai. On te remercie, Seigneur, qu'on peut considérer comment tu t'es révélé à ton peuple il y a des milliers d'années et qu'encore aujourd'hui, le 2 août 2020, tu te révèles comme étant le même Dieu pour nous ici ce matin. On s'attend à toi, Saint-Esprit. Merci que tu es notre instructeur, que tu es celui qui nous convainc aussi. Merci que tu es celui qui sauve aussi, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et tous ceux qui ne sont pas encore lavés dans le sang de l'agneau, qu'aujourd'hui puisse être le jour merveilleux où est-ce qu'ils passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. On s'en remet en tes mains, Seigneur. Merci que tu es au contrôle. Tu es bon, tu es fidèle. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous savez, tout comme nous, Moïse et Israël, dans le contexte des versets qu'on vient de lire, vivaient des changements personnels et sociaux très grands. Ils étaient sur le bord de complètement tout perdre leur point de repère, eux qui vivaient en Égypte depuis 400 ans, c'est tout ce qu'ils connaissaient, la génération qui était là, c'est ce qu'ils connaissaient. Là, ils allaient tout complètement aller dans un nouvel environnement, nouveau tout. OK? Et c'est pour ça qu'ici, Dieu veut les assurer avec ce qu'on a lu, spécialement au verset 3. Dieu veut rassurer son peuple et le leadership de son peuple, Moïse et ceux qui étaient avec lui. Il voulait les assurer pour qu'ils comprennent et qu'ils croient que Dieu lui-même n'avait pas changé par rapport à ce qu'il était avant. Ah, les circonstances avaient changé, mais Dieu n'avait pas changé. Et je vous explique. Quand on lit au verset 3, je ne sais pas si vous avez un peu titillé l'oreille, mais ça dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » C'est drôle, hein? Ça fait comme le lien avec le thème du mois passé puis celui de ce mois-ci. Mais regardez ce que ça dit ensuite. « Mais sous mon nom, l'Éternel. » Et ça, c'est le nom de Dieu, le Je suis, Yahvé, Yahweh, YHWH, le tétragramme, OK? C'est le nom de Dieu, le nom que Dieu a révélé dans le buisson ardent à Moïse, OK? Il dit, sous ce nom, qui est traduit en français, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. En fait, quand on y pense, on dit, ah, ça veut dire, c'est la première fois qu'on voit le nom, l'Éternel, dans la Bible. Non. C'est pas la première mention. En fait, ici, on est au chapitre 6. Dans le chapitre 3, il y a le fameux buisson ardent où est-ce qu'il dit « Je suis celui qui sait ». Puis même, ça, c'était même pas la première mention non plus. Parce que dans Genèse 9, il s'est révélé à Noé comme étant l'Éternel. Il s'est révélé à Abraham dans le chapitre 12 comme étant l'Éternel. Isaac, Jacob, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom de l'Alliance de Dieu. Le nom qui nous rappelle qu'il est toujours le même, qu'il est celui qui est, je suis celui qui suis, et c'est lui, c'est le nom de l'alliance. Ça veut dire, je ne vais jamais changer, mon alliance avec vous ne va jamais changer parce qu'elle est basée sur ce que je suis. OK? Donc, Dieu avait révélé ce nom-là au patriarche, mais voici ce qui était nouveau. La signification du nom. Ça dit, ils ne m'ont pas reconnu sous ce nom-là. Ah, ils savaient que Dieu avait fait une alliance avec eux autres, mais il n'y avait pas la pleine signification. Savez-vous que ça nous parle, ça, d'une vérité spirituelle? On peut dire, ah oui, je connais Jésus comme mon sauveur, je connais Dieu. Mais des fois, la signification de quelque chose, la signification de certains attributs de Dieu, ça peut nous échapper. Ah, Dieu est bon! Mais vraiment, de savoir que Dieu est bon dans tout ce qui arrive, puis que ça soit notre refuge, il y a une différence entre juste le dire, puis en être convaincu de l'avoir, par l'illumination du Saint-Esprit. OK? C'est ça ici dont il est question. Dieu l'avait révélé qu'il était le « Je suis ». Mais il n'avait pas été reconnu comme ça. Il n'avait pas eu la pleine appréciation de ce que ça voulait dire. C'est dans ce sens-là qu'il dit « Sous ce nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu d'eux. » Puis c'est quoi que Dieu voulait qu'il soit reconnu ici? Dieu voulait leur rappeler qu'il restait fidèle. Il est le « Je suis » qui reste fidèle à son alliance, qu'il avait faite avec, justement, ses patriarches. OK? Commençant par Abraham, Isaac, Jacob. OK? Puis, ici, il leur révèle quelque chose de nouveau. OK? Remarquez. Il dit, il parle de l'alliance dans les versets qu'on a lus. Puis regardez, c'est quoi les premiers mots, les deux premiers mots du verset 6? « C'est pourquoi ». Ça veut dire, je ne l'aurais pas, ils m'ont pas reconnu, c'est pourquoi. Il y a un lien entre les deux. Puis regardez, c'est quoi qui leur manquait. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, OK? Je suis le je suis, c'est ça que ça veut dire. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. C'est ça qui manquait aux patriarches. Le fait que Dieu est le grand je suis, qui est fidèle à son alliance, ça veut dire qu'il va les affranchir, qu'il va les libérer. Que son alliance, ça veut dire sa délivrance. C'est ça qu'il n'avait pas reconnu parce qu'il n'avait pas encore vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais été dans des situations aussi extrêmes que ce qu'on voit dans les chapitres 5 et 6 qu'on considère aujourd'hui. Le contexte nous aide à mieux comprendre, à mieux apprécier ici que Dieu se révélait comme étant le Dieu immuable. Je suis le Dieu de l'Alliance. Je n'ai pas oublié mon Alliance. Puis c'est pour ça que là, je vous le prouve en vous délivrant. Parce que j'ai fait l'Alliance, je ne vous laisse pas être des esclaves en Égypte. Je vais vous délivrer. OK? Maintenant, on va faire un petit recul, chapitre 5, versets 15 à 20. Ça va nous aider? À comprendre ce qui arrivait. Parce que ce n'était pas des conditions très bonnes dans lesquelles Israël était. Ça n'allait pas bien. Il était dans l'esclavage, un dur esclavage. Regardez verset. Là, je vous rappelle, Pharaon, il avait rendu leurs travaux encore plus durs. Où est-ce qu'avant, il faisait la paille était fournie pour faire les briques. Il a dit non, vous allez vous-même aller la chercher. Vous allez faire le même nombre de briques. OK? Verset 15. Les commissaires des enfants d'Israël, autrement dit, ceux qui étaient en charge sur Israël pour les travaux, allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire, « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de pain à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques chaque jour la tâche du jour. » Regardez verset 20. « En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient et leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » C'est l'état dans lequel il était. Et savez-vous qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de servir de la souffrance. Il permettait à la souffrance d'augmenter. Il a permis cet édit de Pharaon. C'est Dieu qui est au contrôle de tout ça pour que son peuple puisse crier à lui. Pour que Dieu puisse accomplir sa délivrance, il fallait que les gens sentent leur misère, qu'ils crient à l'Éternel, puis là, Dieu allait délivrer son peuple. C'était exactement le plan. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Ça fait des milliers d'années, puis c'est actuel comme si... Parce que Dieu ne change pas. Et Dieu, quand il amène la souffrance, il y a toujours un but avec ça. Dieu voulait leur donner le goût, le désir, la prière pour sa délivrance. Il voulait qu'ils désirent sa délivrance. Il voulait qu'ils voient leurs besoins. Leurs besoins que... Parce que savez-vous quoi? Le plan de Dieu, c'était pas qu'Israël reste esclave tout le temps en Égypte. Mais là, peut-être qu'ils étaient habitués, faisaient leurs briques, puis tout allait bien. Mais c'était pas ça le plan de Dieu. Vous savez quoi? Je pense que l'Église de Jésus-Christ s'est habituée à faire des briques, puis tout ça, ça va bien. Puis là, Dieu fait que Pharaon a dit, non, là, ça ne peut pas être de même. Puis c'est du quoi? C'est Dieu qui nous rappelle à lui-même. Il sent la souffrance de ça pour qu'on voit sa délivrance. Je crois que c'est exactement ça qui arrive. Vous savez que Dieu agit dans l'humanité à travers son corps, à travers le plan qu'il y a avec son corps. Dieu s'occupe des choses, des nations, puis tout ça. Mais ce qui est le plus important sur la terre, du point de vue de Dieu, c'est son corps, c'est Christ et son Église. Donc, ce qui arrive en ce moment, c'est comme avec le peuple de Dieu, c'est pour nous, premièrement. Puis, je ne dis pas ça de façon égocentrique, puis qu'on se pense bon. Non, parce qu'on est seul espoir du monde. On est le sel de la terre, la lumière du monde. On est l'espoir de ce monde. On a le ministère de la réconciliation, puis Dieu veut qu'on se lève. Qu'on invoque son nom, puis il veut lui opérer sa délivrance. C'est incroyable, le parallèle avec la situation actuelle. Et on peut dire, bon, ici, on a vu la réaction des commissaires... C'est quand même normal. Hey, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe là? Le problème, par contre, lorsqu'il rencontre Moïse et Aaron, c'est qu'on voit qu'il ne regarde pas à la bonne place pour la solution. Hey, t'as fait ça, puis là, tu nous rends odieux, puis. OK, on peut dire que c'est normal. Il y avait d'une certaine façon raison. Mais c'est Dieu qui les appelait à lui. Dieu qui dit hey, vous n'êtes pas supposé d'être des esclaves en Égypte tout le temps. Vous n'êtes pas supposé d'avoir une vie misérable demain. Moi, je suis le Dieu de l'Alliance qui ne change pas, puis je vais vous délivrer. Y a-t-il quelqu'un qui a payé sur un piton? Oh, oui, c'était... OK. Donc, c'est pour ça que Dieu permettait à son peuple de souffrir afin qu'il le considère lui. Et là, ils ont soupiré, puis ils ont gémi. Au verset 6, on l'a vu, Dieu dit, j'ai entendu les gémissements. C'est drôle qu'il n'a pas dit vos prières. Il n'avait peut-être même pas la force de prier. Peut-être qu'il était tellement découragé qu'il n'était même plus capable de prier. Mais Dieu a entendu leurs gémissements. Ça m'encourage pour la prière. Vous savez, des fois, on pense, hey, mon ami, je ne sais pas comment prier, puis je ne prie pas. Même les gémissements. Les soupirs inexprimables, Dieu les entend. Dieu aime son peuple, et Dieu aime à se glorifier dans la délivrance de son peuple. Donc, on peut dire, chapitre 6, verset 5, « Les gémissements de son peuple, mission accomplie. » Dieu les a emmenés là où est-ce qu'ils voulaient être. Dieu emploie les moyens qu'il désire pour amener son peuple là où lui veut. Il emploie la souffrance pour les envoyer là où est-ce qu'il allait crier à lui, gémir, puis Dieu, au secours. OK? Pourquoi? Pour accomplir son plan bienveillant. On sait tout, on est un peu tricheurs, on connaît la fin de l'histoire, on sait que Dieu avait un plan bienveillant avec Israël ici. Croyez-vous que Dieu a encore un plan bienveillant avec son Église en 2020? Est-ce que Dieu a changé? Ah non, Dieu est rendu malveillant maintenant, on va tout être misérable, on va tout finir en prison, puis on va tout mourir. En fait, La dernière phrase que j'ai dit, c'est vrai, là, on va tous mourir. Là. Mais on ne sait pas comment, puis ça, c'est dans les mains de Dieu. Peut-être qu'on va tout être enlevé, qu'on ne va pas voir même la mort comme les autres personnes, OK? Mais ça, ça appartient à Dieu. L'idée, c'est Dieu a un plan bienveillant. Dieu n'a pas changé, Dieu a toujours été bienveillant, a toujours été bon. Faut qu'on se rappelle ça. Et ici, Dieu, dans sa délivrance qu'il est en train de faire, il avait besoin que son peuple lui fasse confiance. Et on a besoin de lui faire confiance, d'où le grand besoin que nous avons de nous rappeler que Dieu est immuable. Et c'est pour ça que le titre du message, c'est la révélation du Dieu immuable. Et peut-être pour des chrétiens, on peut dire l'illumination, le fait que Dieu révèle à nos cœurs qu'il ne change pas, qu'il est le même, qu'il est encore le Dieu de l'Alliance. Il est encore l'Éternel qui est le « Je suis ». Il ne change pas. Il y a un grand réconfort là-dedans. Surtout quand on perd nos points de repère comme en ce moment. N'est-ce pas qu'il y a pas mal d'affaires? Qu'est-ce qui est comme avant maintenant? Ben, Dieu. Lui est toujours comme avant. Mais le reste, pensons-y, qu'est-ce qui est comme avant? Il n'y a plus grand-chose qui est comme avant. Au niveau de nos habitudes, au niveau de ce qu'on fait, même dans nos relations, tout change. Voilà pourquoi c'est tellement important qu'on s'accroche à celui qui ne change jamais. Dieu veut toujours qu'on marche par la foi. Savez-vous, c'est la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nous ici, qu'on marche par la foi. En lui faisant confiance. Lui faisant confiance. Puis, ce qu'on a besoin de plus, c'est que Dieu se révèle à nous. Puis là, je ne parle pas de voir une vision, mais que Dieu saisisse nos cœurs par qui il est. C'est pour ça que je vois vraiment... Dieu est souverain. Là. C'est incroyable qu'on a fait comme thème de l'année, « Voici ton Dieu ». Puis, je ne sais pas pour vous, mais on dirait à tous les mois, ça tombe à point quelque chose qu'on considère sur Dieu. C'est juste moi qui pense de même? Fait, c'est, qu'est-ce que je pense que ça me dit? On a besoin de connaître notre Dieu. Puis d'apprécier à quel point il est grand, il est suffisant, puis tout ce qu'il nous révèle sur lui, c'est ça, mes amis. Ah, il y a bien des affaires qui nous échappent dans son plan. On peut dire, ah oui, il est bienveillant, mais je ne sais pas trop comment, puis pourquoi, puis... Mais la clé, c'est pas ça, c'est que Dieu, on se rappelle qui il est. On n'a pas besoin de savoir tout ce que Dieu est en train de faire. On a juste besoin de se rappeler, c'est qui est en train de le faire. C'est qui est en train de le faire. Il y a une grande sécurité dans le fait de savoir, de croire, de se reposer dans le fait que Dieu ne change pas. Dans un monde en mouvance et bien instable dans lequel on vit, c'est un puissant message de la grâce de Dieu. Savez-vous, les chrétiens, c'est à ça que Dieu nous appelle. Le monde est instable, le monde est désespéré. Les chrétiens, on est l'espoir de ce monde. On connaît celui qui est différent. On connaît celui qui nous donne la confiance, l'hardiesse, l'assurance. C'est ça qu'on a besoin de se rappeler. Puis c'est pour ça que Dieu nous laisse sur la terre. Sinon, il aurait enlevé son église. Dieu, dans sa grâce, ouvre encore les bras au monde. Puis c'est nous, les bras de Dieu, c'est nous. On est son corps. On parle à Dieu les bras grands ouverts tout le jour. C'est nous les bras. C'est nous qui sommes sa bouche. C'est nous qui sommes les pieds qui vont aller vers ceux qui sont désespérés. C'est nous. On est le corps de Christ. Mais regardez le verset 9. 6-9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter. Oh, mes amis, il y a un grand danger. Dans une situation comme on vit en ce moment, comme avec les Israélites dans le livre de l'Exode, le grand danger, c'est que le bruit de la souffrance, le bruit de l'incompréhension, le bruit... Il y a beaucoup de bruit en ce moment, n'est-ce pas? Il y a même du bruit dans nos âmes. Le danger, c'est que ce bruit bloque nos oreilles à entendre la voix du Dieu qui nous appelle à lui. C'est ça le plus grand danger. C'est pas toutes les choses physiques qui peuvent arriver, parce qu'au bout du compte, savez-vous quoi? Notre vie est dans les mains de Dieu. Mon frère Yann nous partageait, il y a un monsieur pas mal âgé qui a eu le COVID, puis il est allé à l'hôpital, il a été sur un respirateur, il a survécu, puis c'était-tu en Colombie? Puis il a survécu à tout ça, savez-vous quoi? Quelques jours après, il est mort d'un accident d'auto. Fait que tu sais, le jour qu'on meurt, c'est dans les mains de Dieu, là. Il a survécu ça, puis tout le monde, ah, au secours, il faut... Notre vie, mes amis, Elle ne dépend pas d'un virus ou de... Si je vais, c'est dans les mains de Dieu. Le souffle de notre vie est dans les mains de Dieu. Arrêtons d'avoir peur de la mort. De toute façon, comme chrétien, on ne peut pas avoir peur de la mort parce que, comme dirait Joseph Tson, « Ah, tu me menaces avec la mort, en fait, tu me menaces avec le ciel. » Je suis bien content d'aller au ciel. Mais c'est dans notre instinct, hein? « Oh, on ne veut pas mourir, on ne veut pas souffrir. » Qu'on se rappelle que Dieu, c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui a notre vie entre les mains. Et donc, laissons pas le bruit de ces circonstances nous bloquer les oreilles à l'Éternel, puis que ça nous empêche de recevoir son réconfort. Que ça nous empêche de le voir, lui, parce que Dieu veut se révéler à nous d'une façon bien spéciale. Dieu veut opérer une délivrance, mes amis. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit que Dieu a un plan bienveillant de délivrance? Délivrer son peuple de, de ses péchés, de la peur, de la colère, de l'amertume, de toutes ces choses-là. Délivrer encore des gens des liens du péché. Dieu sauve encore en 2020. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Ça aussi, c'est une raison pour laquelle on est sur terre, pour faire connaître ce Dieu-là aux gens qui ne le connaissent pas encore. Faut qu'on entende sa voix. Il y a un homme qui partageait l'évangile un peu partout où il allait, puis une des choses qu'il faisait, il donnait des traités, il rentrait dans un restaurant, puis il donnait des traités. Puis là, un gars qui était avec lui, il dit, « Pourquoi t'en donnes à certains, puis t'en donnes pas à d'autres? » Parce qu'il dit, « Je prie, Seigneur, avant de rentrer dans le restaurant, Seigneur, dirige-moi vers ceux dans lesquels tu travailles. » Il était à l'écoute de la voix de Dieu, puis... C'est pas bizarre, ça. C'est la vie chrétienne. C'est entendre la voix du berger. C'est pas se ficher de l'autre. C'est juste... De toute façon, il se promenait de même, puis là, il va... Ah, tiens, il donne un traité, puis ça. C'est ça qu'on a besoin, le peuple de Dieu. Entendre la voix de Dieu et que les bruits dans nos cœurs peuvent empêcher d'entendre. Et, mes amis, dans le fait d'entendre la voix du Dieu qui ne change jamais, il y a une sécurité, une stabilité... une force dans la tempête. Regardez les psaumes, puis quand ils parlent de Dieu, notre rocher, notre refuge, notre haute retraite. Regardez la sécurité que le psalmiste trouvait juste dans cet aspect du fait que Dieu est comme ça. Je viens de parler d'entendre pour prendre une autre image. La lumière de la révélation du Dieu immuable, le fait que Dieu se révèle à nous comme étant... inchangeable. C'est une lumière qui éclaire les ténèbres de notre confusion, de notre peur, de notre incompréhension, de notre souffrance. C'est ça la lumière dont on a besoin. Et depuis les derniers mois, ça a été tout qu'un dernier couple de mois, n'est-ce pas? Sans précédent. En tout cas, pour nous autres, on n'a jamais eu autant besoin que Dieu se révèle à nous comme le Dieu qui ne change pas, comme le Dieu de l'Alliance, comme le Dieu qui délivre. Puis voici ce que je veux faire avec les minutes qui restent à ce message. Vous citez Daniel 2:22. Que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure avec lui. Le psalmiste dit, « Sonde-moi, oh Dieu, connais tout mon cœur. » Et dans Éphésiens, ça parle du Saint-Esprit qui illumine les yeux de notre cœur pour qu'on voit le grand salut qu'on a, le grand Dieu qu'on a. Donc, l'approche que j'aimerais avoir par rapport à ce Dieu qui ne change jamais, c'est simplement de demander à Dieu qu'il nous révèle, qu'il nous illumine le cœur sur qui il est. Parce que, mes amis, savez-vous que c'est quoi un grand problème qu'on a? Quand on voit toutes les choses qui changent, dans notre tête, on se dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui change avec Dieu. Dieu peut-être nous a oubliés, Dieu... On ne va pas le dire de même, penser que c'est théologiquement incorrect. Mais dans notre nature déchue, c'est de même qu'on pense. Mais c'est pour ça qu'on a besoin que Dieu se révèle à nous tel qu'il est. Il ne change pas. Et c'est la réalité spirituelle sur laquelle je veux qu'on s'arrête ce matin, que Dieu révèle ça à nos cœurs. Alors, on va voir trois besoins essentiels pour entendre la voix de ce Dieu inchangeable qui se révèle à nous. D'abord, dans chapitre 5, verset 2, on va juste garder quelques versets comme ça, en tirer des leçons. Le premier besoin essentiel pour entendre la voix du Dieu immuable, c'est le besoin de connaître le Dieu immuable. Regardez ce que Pharaon dit au verset 2, 5-2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Savez-vous que lorsqu'elle m'a dit, « C'est qui l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? » Savez-vous que Dieu s'est occupé lui-même de répondre à cette question? Puis il a très bien répondu. Vous irez voir chapitre 7, chapitre 9, chapitre 10. Dieu a révélé c'était qui était, puis c'est quoi? Pharaon l'a su qui était l'Éternel. Mais il a appris de la manière dure, il a appris par le jugement. Et il ne connaissait pas Dieu, puis il ne l'a pas plus connu parce qu'il ne s'est pas humilié devant Dieu. Vous savez, Dieu, pour le connaître, ce n'est pas par des connaissances, des faits seulement, c'est par la foi, c'est en se confiant en lui. Et ici, on a l'exemple de Pharaon qui a connu pas mal de choses sur Dieu, sa grandeur, sa toute-puissance à travers le jugement. Savez-vous qu'ici, Dieu veut se faire connaître à vous? Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, Dieu veut se faire connaître à vous par sa grâce. Parce que si vous êtes ici, Dieu, il déverse sa grâce sur vous autres. Si vous ne le connaissez pas encore comme sauveur personnel. Parce qu'il vous donne la vie, il vous donne la lumière de l'Évangile, de sa parole. Dieu, dans sa grâce, est là, puis il vous inonde de ce qu'il est. Puis, si vous ne le connaissez pas encore, c'est parce que vous n'avez pas appris à vous confier en lui. Parce que il y a un monde de différence entre connaître des choses au sujet de Dieu versus connaître Dieu. Parce qu'on peut connaître bien des choses au sujet de Dieu, et très exact, biblique. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Vraiment connaître Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apprendre à se confier en lui. Jésus, dans notre vie, c'est le voir comme celui qui a la réponse à tous mes besoins. D'abord, mon plus grand besoin, le salut, d'être justifié. Je suis un pécheur, j'ai brisé la loi de Dieu. J'ai besoin d'un substitut. J'ai besoin de celui qui a accompli la loi à ma place. Mais c'est plus que ça, c'est pour le reste de ma vie. Connaître Dieu, c'est d'apprendre à se confier en lui. Pour... Hey, c'est vrai que Dieu, quand il dit ça dans sa parole, hey, c'est vrai, il est de même. C'est vrai, Dieu est fidèle. Wow, c'est vrai que Dieu secourt celui qui est affligé. C'est vrai que Dieu répond aux cris de celui qui est dans la détresse. C'est vrai que Dieu est bon. C'est vrai que Dieu est amour. C'est quand on se confie en Dieu que là, vraiment, on connaît ce Dieu-là. Un appel spécial aux enfants qui sont ici. C'est ça que chacun d'entre vous doit arriver personnellement à vivre, à vous confier dans ce Dieu qui est le Dieu probablement de vos parents. Puis j'espère que par la foi, vous allez aussi faire de lui votre justice pour le salut, votre refuge, votre joie, votre paix. Le juste vivra par la foi de ses parents. Le juste vivra par la foi de sa famille, de son époux, de son épouse. Non, le juste vivra par sa foi. C'est un verset qui est dans l'Ancien Testament, dans Habacuc, qui est cité 3 fois dans le Nouveau Testament, dans des livres très importants. C'est un des versets les plus fondamentaux de la Bible. Le juste vivra par sa foi, en se confiant pour lui-même dans Dieu. Puis c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Ceci dit, j'aimerais aussi attirer votre attention sur quelques faits, sur le fait que Dieu est immuable. On a besoin de connaître ces choses-là. Le premier besoin qu'on a, c'est de connaître le Dieu qui est immuable. Non seulement le connaître en mentalement, mais de croire à ces choses. Savez-vous que Dieu ne peut pas changer à cause qu'il est parfait? Parce que le changement, ça veut dire qu'il changeait pour devenir pire ou pour devenir meilleur. Mais quand tu es parfait, tu ne peux pas changer. Donc, Dieu ne peut pas changer parce qu'il est parfait. Vous dites, ah, Jésus est devenu un homme, Dieu a changé. Non, non. Jésus s'est dépouillé, kénosis, il s'est dépouillé de certains attributs, mais il n'a pas changé en nature, il s'est juste dépouillé. Non, Dieu ne change pas, il ne peut pas changer. Parce que s'il changeait, ça veut dire qu'il s'améliorerait ou qu'il deviendrait pire, puis ça ne se peut pas. OK? Ça, mes amis, c'est rassurant à savoir. Parce que ça nous rappelle que Dieu est parfait dans ce monde où est-ce qu'il n'y a rien de parfait. Ceux ici qui sont perfectionnistes, on ne va pas vous demander de lever la main. Là. Mais savez-vous que c'est un effort de votre nature pécheresse d'aller peut-être un petit peu trop loin par vos propres forces pour essayer de ressembler à Dieu, au Dieu immuable, parce qu'il est parfait. Puis on aspire à ça. C'est quelque chose de bien, mais fait de la mauvaise manière. Mais ça montre le désir de notre âme à ce Dieu qui est parfait, qui ne change jamais. La Bible nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est un autre passage de la parole qui nous montre que Dieu ne change pas. Et donc, puisque Dieu ne change pas, selon ce passage-là, il ne peut rien faire de mal. Il ne peut rien nous donner de mauvais. Tout ce qui est bon, qui est excellent, toutes les grâces, ça doit venir de Dieu. Il n'y a rien de mauvais qui peut venir de Dieu. Rien. Ah ouais, mais ce n'est pas la souffrance que j'ai eue. OK, Dieu l'a permis, mais c'est quoi? Dieu fait quelque chose de bon avec ça. N'est-ce pas ce qu'on a appris? Tu sais, la semaine passée, là, demain avec Joseph, que Dieu change de mal en bien? Ah, comment ça? Dieu a envoyé injustement Joseph en prison parce que Dieu est bon, puis il faisait quelque chose de bon. Puis il opérait sa rédemption dans la vie de Joseph, puis de toute sa famille. Et c'est le même Dieu qu'on connaît aujourd'hui. Dieu est bon, ça ne peut pas changer. Waouh! Dans Nombre 23, dans Hébreux 6, ça nous dit que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas tromper quelqu'un. C'est pas possible pour Dieu de mentir. Ça, ça ne va jamais changer. Dieu ne va pas un jour se lever de mauvaise humeur et essayer de nous avoir dans une espèce de tromperie. Ça ne va pas arriver. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Dieu est vrai. Il ne peut pas mentir. On peut toujours se fier à lui et seulement se fier à lui. Que tout homme soit connu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout. Mais Dieu, son cœur est parfait, il est bon. On peut se fier en lui parce qu'il ne va jamais nous mentir. Dans 1 Samuel au chapitre 15, on apprend que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, pour changer d'idée. Là, il faut que je qualifie ça un peu d'ail. N'est-ce pas qu'il s'est repenti dans Jonas avec Ninive? Quand on voit l'expression « repentir » en référence à Dieu dans la Bible, on va dire un gros mot, les enfants, là, pas un méchant mot, là, mais c'est anthropomorphique. Ça veut dire que c'est une expression que Dieu prend, une expression humaine pour nous faire comprendre quelque chose sur lui. Parce que Dieu, ses plans sont tellement grands, on ne pourrait pas tout comprendre sur Dieu. Okay? C'est comme si Dieu nous expliquait, là, on regarderait comme votre chien si vous essayez d'y expliquer le sens de la vie. T'sais? Ou peut-être même si vous essayez avec... votre plus jeune, ça va être un peu dur. Tu sais, le sens de la vie pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu élevé pour eux autres, OK? Ben Dieu, c'est la même chose, OK? Il ne pourrait pas tout nous comprendre, fait qu'il dit, OK, je me suis repenti du mal que j'ai fait, puis pas parce que Dieu était surpris, puis qu'il a appris quelque chose, puis OK? Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Quand il prend l'expression, c'est pour exprimer ce qu'il fait en réponse à ce que l'homme fait, puis bon. Mais l'idée, c'est que Dieu... Il n'est jamais surpris, il n'est pas mal pris par une situation. Il n'a pas à changer d'idée et dire « Oh mon ami, ce plan-là n'a pas marché, il a fallu que je change de plan. » Non, parce que Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme pour se repentir. Son plan est parfait et il garde toujours le plan A. C'est le seul qu'il y a. Il n'y en a pas deux parce que c'est le plan parfait. OK? Lorsqu'on connaît ces choses, lorsqu'on les croit, ça devient un refuge. Je ne vous dis pas juste la théologie pour remplir des feuilles dans un message un matin. Là. C'est des choses que Dieu nous révèle sur lui-même. C'est des vérités salvatrices, mes amis, des vérités libérantes. Et il y a une grande source de foi, de joie, de réconfort, de courage à croire ces choses au sujet de notre Dieu. Donc, on les connaît par la foi. Et je crois que c'est vraiment le secret... du courage, qu'on voit spécialement dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est un temps de grand bouleversement. Tu sais, on dit, oh, il n'y a jamais eu des grands bouleversements de même. Ben, il y en a eu pas mal des... Imaginez-vous, les gens diraient que tout ce qu'ils connaissaient, le temple, puis tout ça, puis là, tout leur monde changeait, là. Ils ont été même chassés du temple. C'est quoi l'adoration maintenant? C'est Dieu a changé, puis... C'était des grands temps de bouleversement. Mais je pense qu'ils se sont accrochés au fait, non, c'est le même Dieu de nos pères. Qui se révèlent puis qui sont pleins, est en train de s'accomplir. C'était leur refuge, c'était aussi leur assurance. Regardez comment ils prêchaient Christ, puis la résurrection, puis comment tout ça, c'était selon les Écritures. Parce que Dieu ne change pas. Ça amène au deuxième besoin ce matin, besoin essentiel pour entendre la voix de Dieu immuable. Non seulement on a besoin de le connaître, mais on a besoin de prendre garde à lui. Prendre garde au Dieu immuable. Regardez chapitre 5 et le verset 9. Excusez, 6, 9. Non, c'était 5, 9. Excusez-moi. Que l'on charge de travail ces gens et qu'ils s'en occupent, ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Ici, c'est Pharaon qui parle. OK? Puis Pharaon appelle mensonge ce qui en fait est la vérité. Parce que qu'on prenne plus garde à ces paroles de mensonge, c'est-à-dire que Dieu veut délivrer son peuple, que Dieu veut faire sortir son peuple d'Égypte puis qu'il aille adorer dans le désert. Ah, c'est rien que des mensonges, ça ne va pas arriver. Donc, ici, ce qu'il appelait mensonge, c'était la vérité, puis Dieu allait le démontrer très clairement sous peu. OK? On dit une leçon d'objet, une leçon d'objet fois 10 pour Pharaon. Puis ce que lui croyait, Pharaon, était un mensonge. Il croyait qu'il pouvait résister à Dieu. Il croyait qu'il était capable d'empêcher Dieu d'accomplir son plan. Mais oui, il n'y a pas plus grand mensonge. Savez-vous que c'est le grand mensonge que les leaders qui rejettent Dieu apprennent de la façon dure? Dans le message de MacArthur le dimanche passé, c'est qu'il disait Pharaon en est un de ceux-là, mais aussi Saül, puis Hérode, puis tu les vois, ils ont tous fini par être complètement détruits, puis ils ont cru le mensonge qu'ils pouvaient résister à Dieu, qu'ils pouvaient avoir leur volonté au-dessus de ce... Ils se sont pris pour Dieu. Ça ne marche jamais, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Bon, il croyait que Pharaon croyait qu'il était un type de Satan ici, qu'il pouvait résister à celui qui appelait son peuple hors d'Égypte. Ça n'a jamais marché pour personne, puis ça n'a pas marché pour lui non plus. Et mes amis, il y a des voix dans le monde. Il y a des voix dans le monde qu'on entend pour qu'on ait peur, des voix qui menacent, des voix pour nous asservir, qui vont contre la voix de Dieu. Comme ici, ce qu'il appelait mensonge était la vérité, ce qui était la vérité était ce que lui disait que la vérité, c'était du mensonge. Et ces voix-là qui vont contre Dieu sont l'inverse de la réalité des choses. OK? Parce que, savez-vous quoi? Les voix dans le monde qui menacent, qui veulent qu'on ait peur et tout ça, c'est des gens qui ont la conscience endurcie. Qui ont la conscience endurcie qui les empêche de prendre garde au Dieu immuable. C'est pour ça qu'on ne doit pas les écouter. On ne doit pas ajouter foi à ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne prennent pas garde à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Puis ils ne prennent pas garde à lui non plus. Je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que quand, comme ici, bon, il y avait des travaux, de la peine, tout ça, c'était pas évident, OK? Mais savez-vous qu'il y a une liberté spirituelle, il y a une puissance spirituelle dans le fait de prendre garde à Dieu, de le connaître. Il y a une liberté qui est là. Mais au contraire, lorsqu'on résiste à la voix de Dieu, qu'on ne prend pas garde à ce Dieu qui se révèle à nous, mais qu'on y résiste, on est misérable. On est complètement misérable et c'est ce qu'on voit partout autour de nous. Et la cause, mes amis, la cause, ce n'est pas parce qu'il y a un virus. La cause, ce n'est pas la propagande des médias. La cause, c'est parce que les personnes rejettent la voix de leur conscience qui leur rappelle que c'est Dieu qui est Dieu. Le problème de notre société, c'est parce qu'ils ont rejeté Dieu. Et si vous n'avez pas lu ce livre-là, je ne sais pas s'il est fait en français, mais je vous encourage à le lire. Ça l'ouvre les yeux sur ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. C'est Erwin Lutzer qui a été pasteur de l'église Moody Bible Church à Chicago. Il a écrit un livre qui s'appelle « Quand une nation oublie son Dieu ». Et dans le fond, ce livre-là, c'est assez simple ce que ça fait. Ça prend l'Allemagne de l'avant-guerre, parce que vous savez, Hitler n'est pas arrivé, boum, direct à la guerre. Avant la guerre, il a eu sa montée, puis il est monté au pouvoir, puis tout ça. Cette Allemagne-là, qui a accepté Hitler, puis qui a tout rentré dans ça, il fait le parallèle entre cette situation puis l'Amérique moderne. Et les parallèles sont frappants. Mais le dénominateur commun,
c'est qu'autant l'Allemagne de l'avant-guerre que l'Amérique actuelle a rejeté son Dieu. Donc là, il n'y avait plus d'absolu. Les lois n'étaient plus basées sur la vérité absolue du Dieu qui est au-dessus de tout. C'était tout basé sur l'homme, donc tout changeait. Savez-vous que ce n'était pas un crime pour un Allemand de tuer un Juif? Ce n'était pas contre la loi. Au point où est-ce que lorsque les officiers nazis sont allés au procès de Nuremberg, ils ont dit « On n'est pas coupable de rien. Je vais être jugé selon la loi allemande. Vous me jugez selon d'autres lois. Je suis allemand, je vais être jugé selon la loi allemande. Je ne suis pas criminel. » Pourquoi? Parce que la nation avait rejeté Dieu. C'est ça le problème. C'est ça qui arrive aussi en ce moment. Pourquoi qu'on voit... Avez-vous des gens qui disent « Je veux plus de police, puis on détruit tout, puis l'avortement, tout est... » Pourquoi? Parce que les gens ont rejeté la vérité absolue de Dieu. C'est ça le problème. Notre nation ne prend plus garde à son Dieu. Donc, la situation actuelle, pandémie, puis tout ça... C'est la même chose qui arrive que ce qui est arrivé durant l'Allemagne de l'avant-guerre, qui a accepté Hitler, ou aussi pour Israël, qui avait de la misère à entendre la voix de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas garde à leur Dieu. On l'a lu tantôt, le verset, chapitre 6, verset 9, « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. » Puis Moïse parlait au nom de Dieu. Ils ne prenaient pas garde à Dieu qui se révélait à eux autres. C'était ça le problème qui arrivait. Puis c'est ça le problème qui nous arrive en ce moment. On ne prend pas garde à celui qui nous appelle à lui. Et Dieu n'a jamais changé. Son message n'a pas changé. Savez-vous que le message de l'Évangile est le même? C'est encore le message qui délivre. C'est encore le message d'espoir pour ce monde. C'est nous qui changeons. Mais il ne doit pas en être ainsi. Savez-vous quoi? Si la tête n'a pas changé, le corps ne doit pas changer. Mes amis, c'est un temps où est-ce que plus que jamais... Est-ce que Jésus était la tête de l'Église du livre des Actes? Est-ce que c'est lui qui leur a donné du courage? Est-ce que c'est lui qui, malgré le fait qu'il était persécuté, qui était jeté de leur synagogue, qui était mis dehors, que même dans le monde païen, il y avait des émeutes contre eux? Est-ce que Jésus était la tête de cette Église? Est-ce que nous avons encore la même tête en 2020? Est-ce que Jésus a changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La tête n'a pas changé. Il n'y a aucune raison que le corps change. Pourquoi on a peur? Pourquoi l'Église de Jésus-Christ est paralysée? Parce qu'on ne prend pas garde à ce Dieu qui est notre tête, qui ne change pas. Ce n'est pas les circonstances le problème. Ce n'est pas les circonstances le problème. Le seul espoir de ce monde, c'est le corps de Christ. Vous le disiez, on est ses bras, on est sa voix, on est ses oreilles pour écouter ceux qui sont dans le malheur. C'est nous l'espoir de ce monde. Il n'y en a pas d'autre. Il faut qu'on l'invoque, qu'on s'accroche à lui, puis qu'on proclame sa délivrance. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant, aujourd'hui, le jour du salut. Si on est encore ici, c'est parce que Dieu a encore des gens qui veut sauver. Amen? Puis qui veut encore visiter son peuple. Ça m'amène au troisième besoin ce matin. Besoin essentiel pour entendre la voix du Dieu immuable. Le besoin de se faire entendre par le Dieu immuable. Non seulement on a besoin de connaître notre Dieu, on a besoin de prendre garde à lui, mais aussi on a besoin de nous faire entendre par Dieu. Regardez le chapitre 6, verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de son alliance. Croyez-vous que Dieu entend nos prières? Croyez-vous que ça change quelque chose? Je ne dis pas ça juste de même. Est-ce que vraiment on croit que Dieu encore entend? Ça sert-tu à quelque chose qu'on prenne un temps de prière le dimanche matin, le mercredi soir? Des fois, ça change-tu quelque chose? Mes amis, il faut qu'on le croie. Il faut qu'on se fasse entendre à ce Dieu qui ne change pas. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, d'incompréhensible dans la prière. Dieu est premier en toute chose, OK? Ça dit dans Colossiens, hein? Dieu veut la prééminence en toute chose, afin qu'en toute chose, il soit le premier, OK? Et donc, Dieu est l'initiateur de toute chose. Mais dans son plan souverain, Dieu veut répondre à notre cri, à notre gémissement. Tu vois, ça veut dire, ça c'est pas lui le premier. Mais si on crie et on gémit, c'est parce que lui est en train de travailler dans nos cœurs. Fait qu'au bout du compte, c'est lui le premier. Là. Mais Dieu veut répondre au cri de son peuple. Ici, il a envoyé la souffrance puis plus de briques à faire parce qu'il voulait entendre son peuple. Il voulait que son peuple crie à lui. Et Dieu veut encore ça. C'est comme ça que Dieu a accompli son plan bienveillant de délivrance. En ce moment, je crois que c'est la chose la plus importante, la plus vitale. Parce que c'est la seule chose pour vaincre et triompher de la peur paralysante, endormante de nos églises. Mes amis, c'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps d'avoir peur. C'est le temps pour que l'Église de Jésus-Christ se rappelle qui est son chef, se rappelle c'est qui nous a rachetés par son sang précieux. Mes amis, je vous dis ça, puis mon cœur est lourd par rapport à ça. Sont où les gens de courage? Content qu'il y en a qui se soient levés, puis on en voit qu'ils le font. Mais mes amis, l'autre jour, j'ai une liste là, de pasteurs au Canada qui partagent des choses. Puis sincèrement, j'ai été découragé par un échange de courriel. Parce que les gens disent « Ah ben, on a le droit de prêcher, fait que tout le monde se reste dans son coin. » Puis il y en a un qui a osé dire « Ben non, Dieu c'est lui qui nous... » Puis il répand la parole, puis il se tient pour ce qu'il croit de Dieu, puis un, dans la région de Toronto. Toutes les autres, moi, c'était toute l'idée, ben oui, on reste dans notre petit coin, puis ben, on a le droit de prêcher la parole dans notre église, mais tu sais, on a le droit de prêcher dans notre église, toute poignée, puis tout avec... Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. Est-ce que l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire avec ça? Est-ce qu'il n'y a pas un courage, il n'y a pas une paix, une joie, une communion pour que les gens puissent dire « À ceci tous connaîtront, vous êtes les miens. » Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est supposé d'être notre signature dans ce monde. C'est une lumière, c'est... Sérieusement, j'ai trouvé ça pathétique. Mais j'ai été encouragé par le courage de « Ah, ils sont pas de notre milieu. » Puis ce que j'ai entendu, « Ah, je suis pas un fan de MacArthur, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. » Pas grave, t'es pas un fan. Tu sais quoi? Il a le courage de croire ce qu'il croit, puis de se tenir pour. Puis il est pas seul. Il y en a un autre de notre milieu qui a fait pareil. Alain Caster. Toujours en Californie. Un peu, pas mal la même région. Mes amis, ce que je vais essayer de dire, c'est que on a besoin de se faire entendre par Dieu pour que, comme dans le livre des Actes, on dise « Dieu, on veut une pleine assurance. Fais que tes serviteurs annoncent la parole avec une pleine assurance, boldness. » C'est pas le temps d'être recroquevillé dans notre coin et d'avoir peur. C'est le temps de proclamer l'espérance que notre monde a tant besoin. Est-ce qu'on a honte de notre message? Est-ce qu'on a honte de notre Dieu? Non, mes amis. Puis Dieu n'a pas changé. Ça, c'est... On peut s'appuyer là-dessus. Mes amis, je vous encourage personnellement à lire, à méditer le livre des Actes. Parce qu'on peut apprendre beaucoup de ces gens-là. Il y a quelque chose qui nous échappe, que les gens du livre des Actes avaient compris et croyaient. Savez-vous c'est quoi? Simplement si. Il faut se faire entendre par le Dieu immuable. Savez-vous quoi? C'était des gens de la même nature que nous qui avaient peur comme nous autres, puis dans des circonstances difficiles comme nous autres. Mais il savait qu'il y avait un Dieu qui répondait à la prière. Il savait qu'il y avait un Dieu qui était capable d'opérer une délivrance qui ne s'opère pas autrement. Avez-vous pensé à Paul et Silas? Imaginez-vous, là. Hey, ils s'en vont à Philippe. Là, ils voient la conversion. Puis il y a Dieu au travail. Puis comment ça finit? Boum, ils se font tirer en prison. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais dit, « Oh, mon ami, c'est les derniers temps. Ça va pas bien. T'as-tu vu? On essaie de reprendre la parole. Puis on finit en prison. » C'était ça leur attitude? Non, ils ont fait entendre leur voix à Dieu par les chants, par les prières. Puis Dieu les a entendus, il les a délivrés, puis il a fait un tremblement de terre, puis le geôlier a été sauvé. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu voulait se faire entendre par Paul et Silas. Vous savez quoi? Il n'y a pas juste Dieu qui les a entendus. Tout le monde autour de... C'est qui ces deux phénomènes? C'est Hurluberlu ou je sais.
Ils sont rentrés. Wow, ils croient en Dieu que je connais pas. D'un coup, on voit dans la Bible que le geôlier et sa famille ont été sauvés, mais j'ai ma petite intuition qui me dit que je pense que c'est probablement pas le seul. Il y a pas mal d'autres, je pense, que dans la prison, ils ont dit, ouais, ce Dieu-là, pas mal mieux de le considérer. N'est-ce pas?
C'est de ça qu'on a besoin, mes amis. C'est simple, faire entendre notre voix au Dieu qui ne change pas. Pas besoin d'être beau, pas besoin d'être bon, pas besoin de bien parler, juste besoin d'avoir une voix. Puis même si on n'avait pas de voix, Dieu entend même les cris de notre cœur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un besoin réel, profond. Et c'est ça qu'on a besoin, parce que c'est comme ça que Dieu va se révéler à nous comme étant le Dieu qui ne change pas. Vous savez, tant qu'à être dans... Je partageais avec cette liste, avec des pasteurs, tout ça, bon, je trouvais ça pathétique. Je sais pas si vous l'avez déjà confessé ou déjà parlé de ça, mais on a eu la conférence des pasteurs en septembre passé. Ça fait presque un an. C'est toujours un bon temps, la communion fraternelle, on s'encourage. Mais ça m'a laissé un drôle de goût dans la bouche pour une raison. J'avais entendu pasteur Flanders qui prêche la vie de Christ, puis comment Dieu est suffisant, puis le dernier message, il prêche son cœur, puis la parole, puis l'appel est lancé. Invoquons Dieu. Il y en a un qui a dit au secours, puis après ça, c'était un silence assourdissant. On avait juste à faire entendre notre voix à Dieu, puis on n'a rien dit. Puis je veux pas être critique puis méchant en disant ça, mais pourquoi que le peuple de Dieu, quand c'est si simple, ben Dieu a entendu le haut secours d'une personne, mais avec des pasteurs de tout le pays qui sont rassemblés là, pourquoi qu'on n'a pas, on aurait pu dire au moins chacun notre tour au secours, puis de notre cœur, puis dire Dieu au secours. Mais pourquoi on n'a même pas fait entendre notre voix à Dieu? Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme si c'est tombé à plat. C'est ça notre problème. Le problème, c'est pas parce que Dieu a changé, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable. C'est parce que simplement, on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Ou on demande mal pour satisfaire nos... Ah, Dieu, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas avoir à des choses qui sont contre mon petit confort, puisque je veux... Non, c'est pas comme ça qu'on prie. Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas ma volonté, mais la tienne. Notre seul espoir dans ces temps ténébreux, c'est de faire entendre notre voix au Dieu qui ne change pas, malgré que tout change. Puis notre attention, notre focus, ça ne doit pas être sur ce qui change. Ça, c'est comme, ça serait comme Pierre qui regarde aux vagues. Non, notre attention, c'est sur lui qui nous tend la main puis qui peut nous empêcher de couler. Connais-tu réellement ce matin, par la foi, Jésus-Christ comme ton sauveur? Ton espoir, si tu es ici, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, c'est simplement te confier dans celui qui ne change pas. Jésus est venu une fois, son plan est parfait, il n'y aura pas besoin de revenir. Il a versé son sang, tout est accompli. Il n'y a rien qui va changer de ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Si vous êtes ici, votre espoir, c'est de vous accrocher, invoquer le nom du Seigneur. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que tu apprécies? Est-ce que tu te réjouis en ton Dieu d'une façon qui sanctifie, qui met à part ton cœur dans toutes ces choses-là? Est-ce que ton espoir, c'est dans celui qui ne change pas, celui qui est venu pas juste pour donner la vie, pour survivre, puis non, il est venu donner la vie abondante. Savez-vous que c'est un verset de réveil, ça? On dit, ah, le réveil, c'est quand il y en a 200 dans la vie qui sont sauvés. Non, le réveil, c'est quand la vie de Jésus-Christ revient là où elle devrait être dans la vie de ses enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Si on ne vit pas la vie abondante, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Puis même si on est dans les derniers temps, savez-vous, la voix de l'incrédulité peut nous faire croire, ah, oh, on est dans les derniers temps, ça se peut pas un réveil. Excuse, mais dans toutes les époques de toute l'humanité, le désir de Dieu, c'est que son Église ait la vie abondante que Jésus donne. C'est ça un réveil. Là, jusqu'où ça va, puis ce que ça fait, ça, c'est Dieu qui s'en occupe, c'est pas grave. Mais on peut savoir que pour notre vie, pour notre Église, les Églises qu'on connaît, on peut prier avec confiance. Dieu, réveille-nous! Visite-nous, relève-nous. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Il ne veut pas qu'on ait la vie de subsistance juste pour dire que ça passe. Non, Dieu est un Dieu bien plus généreux que ça. Faut pas qu'on se contente de si petit quand Dieu est si grand. Quand Dieu donne la paix qui surpasse toute intelligence, lorsqu'on lui fait connaître nos besoins par des prières, des supplications, puis avec des actions de grâce. Donc, tout simplement, ce matin, d'un cœur sincère, invoquons le Dieu qu'on a vu dans l'Exode. Invoquons celui qu'on voit dans le livre des Actes. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Puis il est encore bienveillant, puis encore son plan bienveillant pour aujourd'hui. Puis c'est à notre tour, comme dirait M. Côté, c'est à notre tour d'être sur la glace. C'est nous son corps, en ce moment. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on va y faire confiance? Faisons entendre notre voix. Oui, Seigneur, on te fait entendre notre voix. Même si c'est un gémissement, un soupir inexprimable, merci Saint-Esprit que tu es celui qui intercède pour nous. Merci Jésus-Christ que tu es notre avocat devant le Père. On se tient dans la justice parfaite. Parfaite et complète de Jésus-Christ devant notre Père céleste, bien-aimant. Seigneur, sanctifie ton nom au milieu de ton peuple et que ton Église triomphante avance dans ce monde de ténèbres. Merci, Jésus-Christ, d'être notre tête, de ne pas changer, de toujours être le même. Et merci que tu délivres encore, tu sauves encore, tu es le Dieu des délivrances, le Dieu de l'impossible. On te loue. On bénit ton grand et merveilleux nom, dans lequel on te prie ces choses. Amen. Amen. Vous pouvez vous